Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Lecture de l'Épître du bien-aimé apôtre Paul aux Philippiens. Mes frères, soyez animés des mêmes sentiments que le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition divine, il n'a pas cru devoir se réclamer de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti jusqu'à prendre la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et ayant tout l'extérieur d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Mes très chers frères, nous entrons dans la Semaine Sainte. C'est aujourd'hui le dimanche des rameaux. Nous avons eu cette procession, la bénédiction des rameaux, la procession triomphale de notre Seigneur à Jérusalem. Nous avons entendu le chant de la première passion. Nous sommes définitivement entrés dans la Semaine Sainte. La plus grande, le cœur des mystères chrétiens, la plus grande succession liturgique qui se trouve dans l'Église, dans l'année liturgique. Les acclamations de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem font place maintenant au cri infâme « Tollé, tollé, ôté, ôté » quelques jours plus tard. Alors certes, les hommes sont changeants. Certes, le Messie est venu et les siens ne l'ont pas reconnu. Certes, les déicides ont été châtiés. Mais, mes frères, que nous importe les sentiments des causes secondes. Regardons aujourd'hui à celui qui s'est livré volontairement pour nous, celui auquel nul n'a pris la vie, qu'il n'ait voulu la donner, celui qui est notre Rédempteur et notre exemple. Dans ce bref sermon, aujourd'hui, pour ce dimanche des rameaux, je vous propose d'examiner essentiellement l'oraison, qui se découpe en deux parties, qui seront les deux points de notre sermon. Premièrement, nous verrons que Dieu prépare notre salut. Et nous parlerons de l'incarnation et de la croix, et qui sont un modèle donné au genre humain, selon les termes de l'oraison. Et deuxièmement, Dieu réalise notre salut. Et nous verrons les leçons à tirer de la patience du Christ, ce qu'elle signifie pour nous, et comment les mettre en pratique, et quelle est leur fin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Voici l'oraison que nous avons priée il y a un instant. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour donner au genre humain un modèle d'humilité qu'il eut à imiter, avait voulu que notre Sauveur prît notre chair et endurât le supplice de la croix. Faites-nous la grâce de recueillir les leçons de sa passion, afin que nous puissions avoir part aussi à sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. À qui l'Église nous fait-elle nous adresser? Encore une fois, mes très chers frères, tout est écrit, il suffit de lire. Omnipotens sempiterne Deus, Dieu tout-puissant et éternel. Nous avons dit à plusieurs reprises, et j'espère que vous vous en souvenez, mes très chers frères, que lorsque l'Église nous fait nous adresser à Dieu en l'appelant Dieu tout-puissant, c'est que nous devons confesser notre impuissance. Ici, il s'agit de confesser que sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Et sans la volonté de Dieu exprimée d'une façon très particulière, nous ne sommes pas là en train de parler de la volonté de Dieu telle qu'elle était au moment où il a créé l'homme, où il a formé l'homme de la poussière du sol. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste depuis la chute de nos premiers parents. C'est la volonté de Dieu qui veut nous sauver par son Fils. Il ne veut pas nous sauver comme cela parce que ça lui chante, il veut nous sauver par son Fils. Désormais, c'est le Fils éternel de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Dieu Tout-Puissant et Éternel, ici dans cette oraison particulière, nous nous adressons à Dieu en tant que Tout-Puissant, Tout-Puissant dans le salut. Dieu peut tout ce qu'il veut. Nul ne s'oppose à sa volonté. Et le psaume dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Et contrairement à ce que disent certains aigrefins, il ne fait pas tout ce qu'il veut au ciel, à l'exclusion de la terre, évidemment. Il est au ciel, d'où il surplombe la terre, si l'on peut parler de cette façon-là, et il fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. La cause première qui ordonne les causes secondes, c'est Dieu omnipotent, Dieu tout-puissant. Mais il est dit aussi Dieu tout-puissant et éternel. C'est-à-dire qu'il est éternel, et cela fait référence à la longanimité de notre Dieu. C'est-à-dire que d'habitude, nous disons, vous êtes tout-puissant, Seigneur Dieu tout-puissant, vous pouvez tout, moi je ne peux rien, nous ne pouvons rien. Et là nous disons, l'Église nous fait dire, omnipotens sempiterne Deus, tout-puissant et éternel Dieu. Pourquoi invoquons-nous l'éternité de Dieu ici? C'est parce que, pauvres pécheurs, nous avons besoin de la patience de Dieu. Et la patience de Dieu s'enracine dans son éternité. Certes, la patience de Dieu n'est pas éternelle, mais elle est très longue. C'est pour ça qu'il est écrit « sempiterne » et pas aujourd'hui « éterné ». C'est-à-dire qu'il y a une légère différence quand même. C'est-à-dire que la patience, l'éternité de Dieu, l'éternité de la bonté de Dieu, se manifeste dans le temps par ce que l'on appelle la patience divine, la longanimité divine, c'est-à-dire le fait de supporter les injures, supporter les offenses sans se venger. Nous savons que Dieu, au dernier jour, se vengera de toutes les offenses qui lui auront été faites, et cela ne sera que justice. Mais entre-temps, Dieu, qui est tout-puissant et éternel, est patient. Et c'est ce Dieu tout-puissant qui peut tout pour notre salut, et qui est patient parce que nous abusons de sa toute-puissance pour notre salut, que nous invoquons. Sachons bien toujours, mes très chers frères, à qui nous nous adressons toujours bien sûr à Dieu, mais à Dieu qualifié, omnipotens sempiterne Deus. Nous nous adressons au Dieu tout-puissant et éternel. Il peut tout et il dispose tout dans le temps pour sa gloire avec le contraire de la précipitation. Nous savons que Dieu est patient et que Dieu ne se précipite pas. C'est-à-dire que lorsqu'il veut convertir saint Paul, il le précipite à bas et il le convertit, mais entre-temps, il souffre d'être persécuté par saint Paul. « Je suis Jésus que tu persécutes », dit-il à saint Paul, lorsque saint Paul, seul encore, disait « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Il souffre toutes sortes d'errements. Il souffre, c'est-à-dire il supporte, toutes sortes de mésaventures, toutes sortes d'égarements, toutes sortes d'ingratitudes, toutes sortes de rébellions, pour lui, cela n'est pas un problème. C'est un problème pour nous les hommes, parce que plus nous perdons notre temps, plus nous différons notre conversion, plus évidemment notre vie, qui est potentiellement la vie de la grâce, se raccourcit. Nous perdons notre temps, et le temps doit se racheter, mais le temps ne se démultiplie pas. Il nous est donné un certain nombre d'années à vivre. Si nous faisons n'importe quoi pendant un certain nombre de ces années, il ne nous reste plus qu'un petit moment pour nous convertir et pour faire les œuvres de la foi. Eh bien, mes très chers frères, notre Seigneur, du point de vue de l'éternité, cela lui importe peu. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit comme par la main, et quelque rebelles que nous soyons à Dieu, ou plutôt quelque rebelles que les hommes puissent être à Dieu, Dieu les guide là où il veut. Évidemment, pourquoi ai-je fait une différence entre nous et les hommes? C'est-à-dire que nous avons été convertis, nous vivons dans la grâce, et nous ne pouvons pas, si j'ose dire, nous offrir le luxe de faire n'importe quoi. Sinon, nous savons que nous allons être châtiés, parce que nous avons déjà reçu l'essentiel des grâces, qui sont les grâces de conversion, qui sont les grâces d'illumination, qui sont les grâces qui font que, mes très chers frères, vous êtes là au cours de cette messe, ou vous écoutez le sermon parce que vous n'avez pas pu venir, mais il se trouve que vous êtes déjà chrétien, vous n'avez pas le droit de perdre votre temps. Mais les malheureux qui sont dans les ténèbres sous l'asservissement du diable, eux, perdent leur temps, font n'importe quoi, et cela n'est pas un problème pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sauve infailliblement qui il veut sauver. C'est pour cela que nous nous adressons à ce même Dieu qui a été si patient envers nous, omnipotens sempiterne Deus, Dieu tout-puissant et éternel. Alors, nous disons, l'Église nous fait dire dans cette première partie de l'oraison, elle nous fait en quelque sorte énoncer un postulat théologique, dogmatique. Elle nous fait énoncer quelque chose que Dieu a fait. Dieu tout-puissant et éternel, allons jusqu'au août, exclusivement. Qui salvatorem nostrum carnem sumere et crucem sumere fecisti, qui avait fait, fecisti, deux choses. Premièrement, assumer notre chair au Sauveur. Salvatorem nostrum, pardon, carnem sumere. Vous qui avez fait assumer notre chair au Sauveur. C'est-à-dire vous qui avez envoyé votre Fils pour sauver le monde, vous qui avez envoyé votre Fils afin qu'il s'incarnât de la très sainte Vierge Marie. Et une deuxième chose, et crucem subire. Et vous qui lui avez fait subir, donc à notre Sauveur, notre Rédempteur, la croix. Il a fait deux choses, ce Dieu tout-puissant et éternel, auquel aujourd'hui l'Église nous adresser. Il a fait s'incarner son Fils, et il a fait subir à ce Fils incarné la croix. Ce sont les deux conditions du salut, mes très chers frères, l'incarnation et la croix. Si le Christ avait été une manifestation théophanique, comme dans l'Ancien Testament, on voit des anges qui se manifestent, c'est-à-dire même Dieu qui se manifeste sous la forme d'un ange, qui se manifeste sous la forme d'un homme, il se trouve qu'il aurait eu beau, si j'ose dire, et c'est la théologie qui le dit, subir la croix, cela n'aurait servi à rien, puisque il n'aurait pas offert une victime humaine qu'il aurait été. S'il s'était incarné, et puis que, par impossible, il avait refusé la croix, qu'il n'avait pas dit, non pas ma volonté, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la Passion, mais non pas la volonté, mais la vôtre, alors cette incarnation, d'une certaine manière, n'aurait pas servi à grand-chose, elle n'aurait servi juste d'une certaine manière, enfin si, elle aurait servi à quelque chose. À quoi donc? Question théologique pour vous, mes frères. À quoi aurait servi la Passion si le Christ n'avait pas subi le tourment de la croix, la Passion de la croix? Elle aurait servi à augmenter et à souligner d'une façon encore plus infinie qu'elle ne l'est, notre faute et le péché originel. Parce que nous aurions vu le Fils éternel de Dieu incarné, nous aurions constaté sa divinité, et qu'est-ce que nous aurions fait? Eh bien, nous n'aurions pas pu ne pas l'écouter. Parce que la grâce d'écouter le Christ, c'est-à-dire de se convertir et de suivre ses pas, de se soumettre à lui, nous vient non pas tellement de l'incarnation, mais de l'incarnation réalisée, c'est-à-dire la passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur. Si le Christ n'était pas mort pour nous, le Christ serait remonté au ciel et il aurait témoigné contre nous de notre méchanceté, chose que Dieu savait déjà, mais qui aurait été mise en exergue par l'incarnation. L'incarnation aurait définitivement condamné tous les hommes en disant « Personne n'est aussi innocent, n'est aussi pur, n'est aussi saint que le Fils de Dieu incarné. Tout le monde exhaustivement va aller en enfer. » Donc voyez, mes très chers frères, il y a deux conditions à notre salut. L'incarnation du Verbe et la mort du Verbe sur la croix. Et quelle mort, mes très chers frères? Vous avez entendu tout à l'heure la flagellation, les crachats, les soufflets, toutes choses horribles, mais toutes choses qui ne sont que les manifestations de notre péché à nous, sur le Christ, qui est venu, non pas pour nous manifester ce que nous devrions être, mais pour mourir pour nous. Et ensuite, nous ayant rachetés par son précieux sang, il nous est donné, et c'est encore le début de l'oraison, admittendum, vous qui avez donc fait l'incarnation et la croix, qui humano generi admittendum humilitatis exemplum, vous qui avez fait ces deux choses pour donner au genre humain un exemple d'humilité à imiter. Faisons très attention, mes très chers frères, nous vivons en modernité, nous ne sommes pas à l'époque traditionnelle, et on peut mal comprendre. Qui, humano generi, vous qui avez donné au genre humain, ce n'est pas au genre humain tel que les humanistes l'envisagent, c'est le genre humain régénéré. C'est, d'une certaine manière, le genre humain dans son ensemble, bien entendu, élu et réprouvé, mais c'est le genre humain régénéré, le genre humain capable de comprendre cet exemple et de le suivre. Les malheureux qui croient imiter notre Seigneur en travaillant dans des ONG où ils sensibilisent la population, je ne sais pas moi, à l'excès de population, que sais-je, ils ne font strictement rien à l'imitation de notre Seigneur. Et même, ils font l'œuvre du diable. Le genre humain, mes très chers frères, c'est nous, ce sont les chrétiens. Alors vous avez dit, il n'y a plus grand monde dans le genre humain. Justement, raison de plus d'imiter notre Seigneur dans son humilité. Lui qui s'est incarné pour nous et qui a subi le supplice de la croix. le moyen de procurer aux hommes la grâce du grand réparateur apparaît pour l'homme charnel comme la folie de Dieu, dit saint Paul, comme la faiblesse de Dieu. Le Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'expiation des péchés, ne l'oublions jamais, mes très chers frères, s'est faite explicitement et exclusivement par l'oblation du sang précieux du Christ. C'est le Christ, en versant tout son sang sur la croix, et dans la flagellation avant, et la circoncision bien sûr au début, mais essentiellement dans la croix, qui a été l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'agneau de Dieu n'est pas un agneau qu'on met dans un petit parc et qu'on admire, c'est un agneau qu'on égorge. C'est pour cela que nous mangeons, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, encore de l'agneau, si possible, à Pâques, parallèlement à la liturgie, pour montrer que nous savons que ce Rédempteur qui a été immolé pour nous était représenté dans l'Ancienne Alliance par l'agneau de Dieu, et nous mangeons cet agneau par dévotion. Il y a une bénédiction de l'agneau, il y a une dévotion à cet agneau pascal. Vous voyez ? Encore beaucoup de gens aujourd'hui mangent de l'agneau à Pâques, ils ne savent pas pourquoi. Eh bien, d'une certaine manière, c'est une réminiscence de leur religion. Ils sont chrétiens, ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, et malheureusement, ils marchent sur ce sang. C'est bien malheureux. C'est pour cela que l'Église doit prêcher à tous ces gens qui se disent plus ou moins chrétiens, et les autres, aux autres bien entendu aussi, afin qu'ils puissent bénéficier d'une façon salutaire du sang versé par le Christ pour l'humanité. L'expiation des péchés, disais-je, a été faite par l'oblation du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été aspergés par ce sang au baptême. Évidemment, le prêtre ne nous asperge pas de sang comme dans l'Ancien Testament, mais il nous asperge de l'eau, et il nous plonge dans l'eau, qui est le substitut du sang du Christ. Il y a là un grand mystère, puisque cette eau est sortie avec le sang du côté de notre Seigneur. Une fois que l'on a compris comment la rédemption a été réalisée, mes très chers frères, alors il faut se l'approprier, il faut se l'appliquer. Il faut qu'elle nous soit appliquée. C'est pour ça qu'il est dit « ad imitandum », afin d'être imité. Notre Seigneur Jésus-Christ a été donné au genre humain, régénéré, comme modèle. Ce n'est pas évidemment, en modernité, il faut faire attention au mot modèle, parce qu'il y a certains théologiens libéraux modernistes qui disent que notre Seigneur n'est pas du tout un sacrifice, mais il est un grand modèle, etc. Les pélagiens disaient que le Seigneur Jésus-Christ, étant donné qu'il n'avait pas de péché originel, n'avait pas à être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais un grand modèle de dévotion à Dieu, d'offrande à Dieu, etc. Ça, c'est du pélagianisme. Notre Seigneur, néanmoins, nous a été donné vraiment comme modèle après nous avoir été donné comme victime. Ce n'est pas un modèle idéaliste, bien sûr, mais un modèle moral. Rien ne sert de se dire chrétien, mes très chers frères, si l'on n'imite pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais spécialement dans son humilité. C'est pour cela qu'il est écrit « Humilitatis exemplum », exemple d'humilité. L'humilité du Verbe s'est manifestée par l'incarnation et par l'acceptation de la croix. C'est un abaissement pour les hommes, pour la rationalité, c'est un abaissement incompréhensible. Et c'est une mort non seulement ignominieuse, mais injuste. Non seulement notre Seigneur a été exécuté comme un vil criminel, mais encore, il a été exécuté contrairement à la manifestation de sa justice. Eh bien, mes très chers frères, c'est par cette volonté salvifique de Dieu, la volonté salvifique de Dieu passe nécessairement par ce chemin qui renverse l'ordre de la nature, mais attention, la nature déchue, et qui restitue la nature à elle-même, c'est-à-dire à Dieu. Parce que le Christ ne s'est pas défendu face à ses accusateurs, parce qu'il ne s'est pas défendu face à Pilate, mais qu'il a rendu témoignage à la vérité, et qu'il a été crucifié en haine de la vérité, c'est pour cela que le Christ, après nous avoir rachetés, est pour nous un exemple d'humilité. Alors, vous allez dire, c'est un grand programme, comment, par quel côté imiter notre Seigneur dans son humilité? Nous ne sommes pas le Fils de Dieu devant s'incarner, nous ne sommes pas le Fils de Dieu incarné devant mourir. Mon Dieu, que faire? Eh bien, c'est très simple, écoutez l'Église. C'est la deuxième partie de l'oraison. Donc, Concede propitius, accordez dans votre bonté accomplissez, achevez ce que vous avez commencé, menez cette bonne œuvre à sa perfection pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Concede propitius, nous avons déjà expliqué ces mots, Concede propitius, ut, ceci, deux points, et patientiae pius, etc. Faites-nous la grâce de recueillir les fruits de sa passion, afin que nous puissions avoir part aussi à sa résurrection. Plus précisément, une des traductions plus anciennes que j'ai consultées disent « Ut et patientiae ipsius habere documenta ». Donnez-nous de tirer les leçons, habere documenta, patientiae ipsius, de sa patience. Évidemment, en français, le mot « passion », au sens de la passion du Christ, et « patience » ont une racine commune. Ça, c'est la racine qui vient du mot qui signifie « souffrir ». Quand on parle de la passion de notre Seigneur, on parle de ses souffrances. Et quand on dit qu'il faut être patient, quand vous dites à votre ami « soyez patient, il faut être patient », nous lui disons, en quelque sorte, pour parler l'ancien français, « souffrez d'attendre ». Vous voyez, la patience a quelque chose d'une souffrance. Quand un petit enfant attend impatiemment le jour de Noël pour recevoir ses cadeaux, d'une certaine manière, il souffre de ne pas les avoir encore. Alors, il faut lui dire de s'apaiser et puis d'être patient, mais vous voyez, la patience correspond à une forme de souffrance. Eh bien, la passion de notre Seigneur, c'est aussi la patience de notre Seigneur. Les anciens avaient des représentations de l'Ecce Homo, où nous voyons notre Seigneur après la flagellation, après le couronnement d'épines, après que les soldats se soient moqués de lui, nous le voyons assis sur une pierre, revêtu encore de ce vêtement de pourpre, et dans une attitude d'attente. Vous voyez, vous avez sans doute vu cela, c'est une représentation de l'Ecce Homo du Christ flagellé assez courante. Nous le voyons, je crois, des fois on le voit tenir sa tête dans sa main, comme quelqu'un qui attend. C'est la patience du Christ. Il attend, si j'ose dire, sans aucune ironie, il attend la suite. Il attend patiemment. Il n'a pas précipité les choses, il n'a pas demandé dès le jardin de Gethsémani la croix afin d'en finir. Il a suivi tout le processus rédempteur par lequel son Père et lui-même voulaient qu'il passe. Disons-nous, l'Église nous fait dire aujourd'hui à Dieu, donnez-nous dans votre infinie patience envers nous et votre toute puissance salvifique de recueillir les leçons de la patience du Christ. Comment, nous nous posions la question tout à l'heure, il y a un instant, comment s'approprier et comment s'appliquer les mérites du Rédempteur ? Imiter son humilité, c'est quelque chose de presque incompréhensible pour nous pauvres humains. Il faut que, pour mettre les choses, cette imitation de l'humilité du Christ en pratique, il faut tirer, habere documenta, c'est-à-dire tirer des leçons. On pourrait traduire improprement avoir des documents, mais ça ne veut rien dire en français. Habere documenta, ça veut dire tirer des leçons. Tirer des leçons de la patience de notre Seigneur. Comment recueillir les leçons? Eh bien, mes très chers frères, je vais vous dire, c'est très simple, mais encore une fois, les solutions les plus sublimes sont à la portée de notre main, mais nous n'y pensons pas. Comment tirer les leçons de la patience du Christ? Eh bien, en examinant, en étudiant, en méditant et en pratiquant, tout en adorant, la passion du Christ. Qui, pour se sanctifier, lit l'Évangile d'une façon très précise? Qui lit l'Évangile avec un bon commentaire, pas les commentaires modernes, c'est-à-dire les commentaires anciens, un bon commentaire pour comprendre comment s'appliquer ce déluge de grâce qui demeure inaccessible si nous l'abordons mal. Aimons à méditer l'Évangile, aimons à méditer la passion de notre Seigneur, aimons avant même d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, à adorer ce qui s'est passé. Quittons, mes très chers frères, c'est peut-être un préalable, quittons toutes sortes de rages, toutes humaines, toutes passionnelles, toutes impures, contre les bourreaux du Christ, etc., les uns les autres. Écoutons les bons commentateurs, ils vous diront, certes, il y a des déicides, certes, les Juifs sont coupables, certes, les Romains sont coupables d'avoir collaboré et de s'être fait refiler, si j'ose dire, le sale boulot par les Juifs. Certes, Mais alors, tout ce qui s'est fait au Christ, c'est nous, c'est moi, c'est le lecteur, c'est le chrétien, c'est le racheté, c'est l'élu qui l'a fait. C'est moi qui l'ai souffleté dans le visage, c'est moi qui lui ai craché au visage, c'est moi qui lui ai arraché sa barbe, c'est moi qui l'ai flagellé, c'est moi qui l'ai couronné d'épines, c'est moi qui me suis moqué de lui en le recouvrant d'un manteau de pourpre usagé et en me moquant de lui, c'est moi qui ai frappé avec le roseau sur sa tête, c'est moi qu'il est frappé pendant le chemin de croix, c'est moi qu'il est abreuvé de fiel, de vinaigre, c'est moi qu'il est crucifié, c'est moi qui me suis moqué de lui. Et vous allez dire, c'est les autres et moi aussi. Méditons la passion sous l'angle de ce que nous avons fait au Christ. Méditons la passion sous l'angle de ce que nous avons fait au Dieu, au Fils éternel de Dieu, vrai Dieu, tout-puissant et éternel. À ce Dieu qui a tout fait pour nous sauver, mes très chers frères, et qui nous a attendus si longtemps. Donnez-nous de recueillir les leçons. Donnez-nous d'avoir ces leçons dans notre cœur, comme la très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, de sorte que cela constitue le fond de notre esprit, le fond de notre raison, le fond de notre forma mentis. Méditons l'Évangile jusqu'à ne plus pouvoir supporter méditer autre chose. Méditons l'Évangile jusqu'à en être saturés, mes très chers frères, et que toutes les sollicitations mondaines nous apparaissent comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire vaines, inintéressantes, inutiles. Saturons notre esprit, mes très chers frères, de l'Évangile, et spécialement de la passion, tous les jours de notre vie, afin d'apprendre à être indifférent aux attraits du monde. C'est cela, recevoir l'exaucement de cette prière que nous demandons au Seigneur, donnez-nous de tirer les leçons de la patience du Christ, les leçons de sa patience. Par la patience, il n'y a pas de patience sans humilité. Il n'y a pas d'humilité sans patience. Un commentateur commentant cette oraison nous dit « L'humilité n'est pas sans patience. Elle souffre et supporte tout sans se plaindre quand elle est véritable. Si je suis vraiment humble, alors je souffrirai tout sans me plaindre. » Vous voyez combien de gens dans le monde, de mondains, de païens, sont capables de souffrir quelque chose sans se plaindre, mais en disant « Attends un peu, tu vas voir, quand j'aurai le pouvoir, je me vengerai. » Vous voyez, un patron qui est désagréable, qui est un chef qui est insupportable, on ne dit rien, jusqu'à ce qu'on ait une promotion, qu'on se trouve au-dessus de lui, et alors là, on le casse. Ce n'est pas la vraie humilité. La vraie humilité, c'est que tout ce qu'elle souffre, elle n'a pas le droit de s'en plaindre, vu ce qu'elle a fait au Christ il y a 2000 ans. Ah, mais je n'étais pas là. J'y étais. Et si j'y étais d'une manière ou d'une autre, en tout cas en esprit, si j'y avais été, j'aurais fait pareil. Ne nous disons pas, si moi j'avais été là, je n'aurais pas fait. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pris une mitrailleuse, vous auriez tué les Romains et les Juifs pour sauver le Christ, et alors? Et donc le salut ne se serait pas produit? Arrêtez de délirer, mes très chers frères. Si j'y étais, j'aurais fait la même chose. Et puisque j'ai fait la même chose, j'y étais, d'une certaine manière, mystérieusement, parce que tout est dans tout, ce qu'un homme fait, un autre peut le faire. Si un homme a été capable de cracher au visage du Fils éternel de Dieu, si un homme a été capable d'enfoncer des clous dans les pieds et dans les mains du Fils éternel de Dieu, j'en suis capable. La preuve que j'en donne, c'est que je suis homme. Et tout ce qu'un autre fait, moi je suis capable de le faire. Car il n'y a pas de limite à l'abîme de la corruption de l'homme. Alors, mes très chers frères, tirons les leçons de la patience de notre Seigneur. Tout ce que nous avons fait subir à notre Seigneur, nous devons en quelque sorte l'expier en lui. Évidemment, et d'une façon infinitésimale en réalité, mais nous devons l'expier par la patience, par cette humble patience qui fait que nous souffrons tout sans nous plaindre. Évidemment, nous souffrons ce que nous méritons. J'ai fait des bêtises, je suis puni, je souffre, mais c'est la moindre des choses que je souffre sans me plaindre. J'ai fait ce qui est bien, on ne me reconnaît pas, on m'accable, eh bien, je souffre encore plus sans me plaindre. Pourquoi? Parce que si je me plaignais, mes très chers frères, je n'aurais pas tiré les leçons de la passion de notre Seigneur, et surtout, je ne serais pas dans la participation au mérite du Christ. Je me plaindrais comme le Christ ne s'est pas plaint. L'humilité n'est pas sans la souffrance. Elle souffre et supporte tout sans se plaindre quand elle est véritable. Et il est impossible, dit ce même auteur, d'être humble sans souffrir, la nature étant toujours là et il y a bien des sacrifices à faire. Bien sûr que l'humilité nous coûte, qu'est-ce que vous croyez? L'humilité nous coûte, c'est pour cela, mes très chers frères, que nous devons tirer les leçons de la patience de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion. La passion, avons-nous dit, est en lien avec la patience, c'est deux mots de la même famille, c'est pour nous être patient, être humblement patient, tirer les leçons de la patience du Christ et de la passion du Christ, c'est cela qui est la clé de notre transformation dans le Christ. Afin que, et c'est la fin de l'oraison, afin que nous puissions nous aussi avoir part à sa résurrection. Pourquoi devons-nous tirer des leçons de la patience du Christ afin de pouvoir nous aussi avoir part à sa résurrection? Si nous retenons et appliquons les leçons de la patience du Christ dans sa passion, nous méritons par ses mérites la participation à sa résurrection. C'est en union avec le Christ que nous sommes mis au bénéfice du Christ. N'espérons pas, mes très chers frères, entrer dans la gloire éternelle du Fils de Dieu si nous refusons de le suivre ici-bas par la patience et par l'humilité réelle. Alors demandons de tout notre cœur au Dieu tout-puissant et éternel qu'il nous donne de pouvoir tirer les leçons de la passion du Christ afin que nous puissions avoir part aussi à sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.